chef de file des soins infirmiers, assurant la sauvegarde des hautes normes de qualité, cherchant à promouvoir l'enseignement, la recherche, l'encadrement, le soutien et le développement des compétences et de l'excellence clinique. Nous sommes la direction des soins infirmiers du CIUS de l'Estrichu. Bienvenue à Savoir et Stéthoscope.
Bonjour à tous, mon nom est Stacy Corriveau, conseillère cadre clinicienne à la Direction des soins infirmiers. Aujourd'hui, je suis avec
Sophie Martin, conseillère en soins à la Direction des soins infirmiers. Pour cet épisode du balado Savoir et Stéthoscope, nous parlerons d'un sujet qui peut paraître difficile à aborder pour certaines et certains, les objectifs de soins et la réanimation cardio-respiratoire. Pour en parler, nous recevons Fritina Blaise, chargée de projet APPR à la DSI, et Andréane Lacharité, conseillère en soins à la DSI et coach infirmière. Leurs rôles respectifs s'inscrivant tous les deux dans le cadre d'un projet pilote du ministère de la Santé et des Services sociaux sur les objectifs de soins et la RCR. Bonjour à vous deux!
Bonjour!
Bonjour Sophie!
Et merci de nous recevoir ce matin.
Nouveauté, développement, accomplissement. Quoi de neuf à la DSI?
Afin d'être cohérent avec le sujet d'aujourd'hui, notre quoi de neuf à la DSI porte sur le processus qui entoure le nouveau formulaire sur les objectifs de soins et les raisons de sa révision. Laissons Andréane nous en parler.
Oui, en fait, aujourd'hui, nous voulons diriger votre attention sur les actions interdisciplinaires et sur l'impact réel que nous pouvons avoir en tant que professionnels d'entretenir une discussion précoce et évolutive avec nos personnes malades sur ce qu'elles aimeraient recevoir ou non comme soins. On veut donc vous expliquer aujourd'hui, dans un premier temps, c'est quoi les objectifs de soins, car on ne parle plus de niveau de soins NIM, A, B, C, D, mais plutôt de trois objectifs de soins, le PEC pour prolongation, équilibre et confort. Nous voulons aussi identifier qui peut parler de ces objectifs-là, toujours en s'appuyant sur les rôles et les responsabilités de chacun. Et finalement, nous voulons démontrer les impacts bénéfiques de cette nouvelle approche transversale.
Tout le monde sait à quoi on fait allusion quand on parle des niveaux de soins A, B, C, D. Mais savez-vous qu'utiliser ces termes, c'est maintenant désuet? On opte pour un vocabulaire qui parle davantage aux gens avec des termes que tout le monde connaît. Prolongation, équilibre, confort parlent d'eux-mêmes.
Le CIUS de l'Estrichu a été mandaté par le ministère de la Santé et des Services sociaux pour effectuer un projet pilote il y a un peu plus d'un an. Trois principales collaboratrices à l'interne du CIUS de l'Estrichu travaillent sur le projet pilote depuis. Il s'agit certes de nos deux invités ainsi que de la docteure Lafontaine, médecin experte en soins palliatifs et éthicienne. Ensemble, elles ont effectué le projet pilote en trois phases. Elles ont réussi par l'entremise d'entrevues, de sondages et d'audits au dossier à valider la compréhension et l'approbation des professionnels, mais aussi l'appréciation et l'implication des personnes malades face à ce nouveau processus.
Fritina, est-ce que tu pourrais nous parler brièvement de ces trois phases et des principaux changements qu'apporte ce projet pilote?
Donc, bien certainement, c'est un projet, comme on l'a dit, qui a commencé il y a un peu plus d'un an. Et pour l'opérationnaliser, donc on l'a divisé en trois phases. Il y a eu une première phase qu'on a piloté à La Pommeraye, dans le RLS de La Pommeraye. Puis, il y a eu une deuxième phase qui s'ensuit à Magog. Et maintenant, on est dans la troisième phase qui est le déploiement PANCIUS, c'est-à-dire on va déployer le nouveau processus et le changement de pratique qui l'entoure dans tous les milieux cliniques. Donc, en ce qui concerne les principaux changements, il y en a pas mal. Donc, la première qu'on pourrait dire, c'est le changement aussi qui entoure les objectifs de soins. Andréane en a parlé. On parle de plus de quatre niveaux d'intervention médicale, mais plutôt de trois objectifs, prolongation, équilibre, confort. Il y a aussi toutes les notions qui entourent la réanimation cardio-respiratoire. Il y a aussi la notion du transfert. Donc, c'est des changements qui concernent le nouveau formulaire en tant que tel. Mais il y a aussi des changements qui concernent la pratique. Et on va le voir un petit peu plus loin. Donc, on porte l'attention sur l'interdisciplinarité dans le cadre de ce changement-là. On porte l'attention aussi sur les bonnes pratiques, c'est-à-dire pourquoi il faut en parler, quand en parler, comment en parler. Puis aussi, il y a tout l'accent qu'on met sur le fait d'en parler précocement aussi. Donc voilà en gros ce qui résume les principaux changements. Et en même temps, c'est un processus, comme vous pouvez le voir, qui concerne tout le monde, les professionnels, les usagers ou la population en général. Et nous allons rentrer un petit peu plus en détail par rapport à ces changements-là. Donc, quatre actions pour en parler aussi. Donc, discuter, compléter, transmettre et aussi l'interdisciplinarité et le fait aussi qu'on parle d'un nouveau outil qui est autoportant. Donc, il ne s'agit plus d'un formulaire où il faut cocher, mais il faut discuter. Et qui dit discuter veut dire communiquer, avoir aussi dans le but de respecter les vrais souhaits de l'usager.
C'est vraiment une très belle approche, un projet pilote de grande envergure dans notre SUS de l'Estrichu. Donc, je comprends que ça va toucher beaucoup de personnes, mais c'est sans doute pour ça aujourd'hui là, qu'on en parle, Andréane.
Oui, tout à fait. On veut vous en parler parce que c'est vraiment un projet qui va toucher tous les professionnels de tous les milieux et aussi toute la population estrienne et bientôt québécoise. Donc oui, il y a une certaine clientèle qui est identifiée comme prioritaire, mais toute personne qui voudra en discuter peut en faire la demande. Donc on est vraiment à venir vous en parler pour diminuer l'inconfort de le faire et on sait que d'aborder les soins souhaités ou non par les usagers et par certains groupes de professionnels peut ne pas toujours être évident. Puis on aimerait déconstruire tout ça avec vous aujourd'hui. Donc comme tout premier point, on aimerait nommer que les objectifs de soins ne riment pas automatiquement avec des soins palliatifs et encore moins avec des soins de fin de vie. Donc, une personne qui voudra en parler, par exemple, dans son suivi annuel, qui a une bonne forme physique, une autonomie préservée, pourrait très bien le faire, tout comme une personne qui n'est pas encore gravement malade en tout début de maladie chronique pourra en parler avec son professionnel de confiance. Chaque milieu doit vraiment l'intégrer selon sa réalité, au moment opportun, selon les besoins de l'usager qui se retrouve devant eux. Donc, chaque professionnel doit toujours être ouvert et sensible à la situation et à la personne qui se retrouve devant lui.
Merci beaucoup, Andréane. En fait, j'aurais tendance à faire le lien avec ma pratique en soins d'urgence parce que, bon, ben, on sait, hein, c'est courant, les usagers arrivent en ambulance, parfois là, inconscients ou carrément en arrêt cardio-respiratoire. Et il faut savoir rapidement qu'est-ce qu'on fait. Est-ce qu'on tente les manœuvres de réanimation et si oui, lesquelles? Parce qu'il y en a plusieurs. Et on n'a pas toujours le temps d'avoir ces discussions-là dans le feu de l'action. Donc, ce que je comprends, c'est que c'est encore plus important de les avoir précocement quand ça va bien, quand que notre famille est là et disponible, quand nous, on est là et disponible cognitivement avec le professionnel de son choix en qui on a confiance. C'est bien ça?
Tout à fait. En fait, ce qu'on veut, c'est vraiment mettre la responsabilité partagé entre les milieux, entre les professionnels et entre les professionnels et les usagers. Donc, oui, ça peut être discuté à l'urgence si la situation s'y prête, si on n'a pas de situation d'inconscience ou d'arrêt cardio-respiratoire, mais on veut aussi mettre l'accent sur les milieux de première ligne tels que les GMF, les CLSC, les soins à domicile, les soins courants. Donc, c'est vraiment l'affaire de tous, pas une unité spécifique. Donc, pas l'unité de chirurgie, ni l'unité de médecine, mais pas le service d'urgence, ni de psychiatrie. C'est vraiment quand la situation s'y prête et que l'évolution de la situation nous enligne pour discuter ou mener une réflexion avec l'usager. Puis, quand tu me nommes avec sa famille, tout à fait, là, les proches sont vraiment invités à faire partie de ces discussions-là. Et si l'usager n'est pas à l'aise d'apporter son proche pour avoir ces discussions-là, ça serait tout de moins de lui nommer ses préférences pour que les proches n'aient pas d'effet de surprise non plus quand les décisions sont prises par les professionnels afin de respecter là, les souhaits des usagers.
Oui, puis je voulais rebondir aussi sur le fait d'en parler tôt. C'est pas une discussion aussi comme t'en as nommé là par rapport à ton expérience dans les urgences, mais il faut dire aussi la discussion peut être amorcée. Il y a pas vraiment avec le nouveau changement, on peut amorcer la discussion et la reprendre un petit peu plus tard aussi. Donc l'idée c'est toujours faire appel au jugement professionnel, au jugement clinique pour dire est-ce que c'est pertinent d'en parler. Si c'est pas pertinent d'en parler et d'en discuter ou de formuler un objectif de soins, on peut toujours amorcer la réflexion puis poursuivre la discussion au moment opportun. Et j'ajouterais aussi, il est pertinent d'en discuter, pas seulement d'en discuter pour déterminer un objectif de soins, mais d'en discuter aussi au regard des objectifs de vie de l'usager, au regard de ses valeurs, au regard de ses préférences aussi. Parce que au-delà de toute la discussion sur la réanimation, sur les objectifs, sur le transfert, il y a aussi un être humain. Donc, c'est pour ça qu'aussi, dans le processus, on a parlé d'un processus empreint de compassion, l'empathie, le respect des choix des usagers, puis les remettre aussi au centre de ces décisions-là. Donc, toute la sensibilité culturelle, donc c'est vraiment l'ultime but des objectifs de soins, il faut aller le voir, c'est vraiment d'aider à personnaliser les soins et à répondre et à offrir des soins aussi en adéquation avec les valeurs, les croyances et là où les personnes malades sont rendues aussi dans leur trajectoire de vie et de maladie.
Je trouve ça vraiment rassurant de vous entendre parler à ce sujet-là en donnant cette approche-là, cette vision-là qui aide vraiment à diminuer l'inconfort qu'on pourrait ressentir là, d'en parler avec les usagers, avec nos proches. Une question a été posée à une usagère partenaire qui est présente depuis le tout début du projet pilote. On va pouvoir voir comment elle perçoit ce changement concrètement. Allons écouter ce qu'elle a à nous dire.
Cette nouvelle approche offre plusieurs avantages. D'abord, le fait d'ouvrir le dialogue plus tôt dans le parcours de la personne malade fait beaucoup baisser le stress qui vient avec le silence et le fait d'éviter le sujet. L'usager et ses proches ont leur juste sur la situation. On sait où on s'en va. De plus, on offre à l'usager la possibilité de s'impliquer dans le choix de son objectif de soins. Il ne subit pas la situation, il est actif. Les mots utilisés, prolongation, équilibre et confort, font partie du vocabulaire courant et on les comprend facilement. C'est beaucoup plus que d'avoir son mot à dire. C'est carrément d'être au cœur de la décision. Je suis contente de voir la mise en place de ces changements. Je suis convaincue qu'il s'agit d'une grande amélioration pour les usagers et leurs proches. J'aurais beaucoup aimé que les choses se soient passées de cette façon pour mes parents.
Ce qu'on peut comprendre, c'est que ce qu'elle nous apporte, cette usagère partenaire-là, c'est une image concrète et fidèle des situations auxquelles plusieurs usagers sont confrontés ou ont déjà été confrontés.
Effectivement, ayant elle-même vécu de près certaines situations sur le plan personnel, mais aussi en ayant intégré dès le début le projet pilote, elle a pu s'imprégner des deux réalités bien distinctes, dans le sens que vivre le processus en étant acteur et porter ce projet, c'est bien différent. Elle peut donc porter fièrement les deux côtés de la médaille.
Nous pouvons voir à travers ce témoignage que l'usagère partenaire croit fermement en ce nouveau processus. Elle croit aussi en sa promotion au sein de la population. Elle saisit tout aussi bien comment cela change concrètement la vie des gens ayant bénéficié. Donc, d'ailleurs, son témoignage vient corréler un petit peu tout ce que nous avons vu à travers des entrevues qui ont été faites auprès des usagères hospitalisées ou en hébergement, en CHSLD, dans les différentes phases du projet.
Vous en avez parlé un petit peu au début là, d'interdisciplinarité. C'est certain là, de ce qu'on comprend, c'est un aspect vraiment primordial dans tout ce projet-là. Pouvez-vous nous en parler davantage là, dans la mise en place de tout le processus?
Oui. Tout à fait. En fait, l'interdisciplinarité qui entoure ce nouveau processus-là aura plusieurs retombées positives. En plus de porter l'accent sur une discussion précoce et évolutive, c'est d'ailleurs la conclusion que l'INES a pu faire à la suite des divers travaux avant même le début du projet pilote lui-même. Si tous les professionnels se sentent interpellés dans ce nouveau processus-là, la discussion précoce et évolutive prendra davantage tout son sens. Ainsi, l'initiation ou la poursuite d'une discussion, lorsque jugée pertinente par un professionnel, pourra être effectuée.
Afin de bien comprendre, qui concrètement pourrait décider de parler des objectifs de soins avec une personne soignée?
Puis comme le disait ma collègue Andréanne, tous les professionnels significatifs pour l'usager et ont un lien significatif avec l'usager pourraient en parler, pourraient amorcer la discussion. Donc ça aussi, ça fait partie du changement. C'est plus uniquement l'affaire des médecins ou des infirmières praticiennes spécialisées. Donc un ergo, par exemple, un travailleur social, un intervenant en soins spirituels. Donc toute personne qui se sent apte à aborder cette discussion-là pourrait en parler aux personnes malades. Mais toujours est-il aussi que les professionnels doivent en aborder et en consigner au regard des obligations de leur, qui sont rattachées à leur profession. Donc, on a vu, au-delà du formulaire qui doit être complété par un médecin ou une infirmière praticienne spécialisée, bien, il y a un annexe aussi qui a été développé au formulaire pour consigner toutes les notes évolutives, toutes les discussions qui ont été amorcées par un autre professionnel autre qu'un médecin ou une IPS. Ça aussi, c'est un changement majeur qu'a amené le projet pilote, puis pour permettre de consigner à la même place toutes les discussions des autres professionnels dans le cadre des objectifs de soins.
Oui, en fait, on invite les professionnels à user de leur jugement clinique afin d'initier une conversation ou même juste une réflexion par l'entremise de documentation expliquant les objectifs de soins. Il y a un dépliant expliquant de façon très concise les objectifs de soins et la réanimation cardio-respiratoire qui a été élaborée à même le projet. Donc, la remise de cette documentation là peut être fait, puis ça va permettre à l'usager d'en prendre connaissance au moment qui lui conviendra le mieux, seul ou avec ses proches. Il faut être attentif, à mon sens, à l'évolution de la situation des personnes que nous soignons, et il est important de s'outiller en tant que professionnel afin de bien pouvoir le faire.
D'ailleurs, on peut faire un lien avec toute cette interdisciplinarité et les impacts que ça peut avoir directement sur les usagers et leurs proches. Afin d'en parler, on laisse la parole à une usagère partenaire.
Au regard de l'usager, le formulaire est plus simple. De plus, les équipes interdisciplinaires apportent à l'usager l'avantage de discuter de ses interrogations et craintes, non seulement avec son médecin et son infirmière, mais aussi avec sa travailleuse sociale et tout le personnel soignant. Grâce à l'annexe, toutes ces discussions seront au dossier, car il ne faut pas oublier que, au bout du compte, ce sont les volontés et les valeurs de l'usager qui importent.
Je trouve ça tellement enrichissant d'entendre là, comme ça des témoignages d'usagers partenaires. Je trouve que ça donne beaucoup de sens à ce qu'on fait.
Oui, tout à fait, Sophie. En fait, je voulais aussi porter votre attention sur la différence entre l'initiation d'une réflexion ou d'une discussion sur les objectifs de soins et l'annonce d'un diagnostic ou encore le choix de traitement possible qui ne concerne pas l'ensemble des professionnels. Ainsi, lorsque les étapes effectuées peuvent s'enchaîner rapidement, il faut rester cohérent.
Tout à fait. Dans le but de mieux outiller les professionnels aussi à l'utilisation des nouveaux outils qui sont développés dans le cadre de ce projet, mais aussi de s'approprier le changement qui accompagne l'arrivée du processus de discussion des objectifs de soins, on a développé une formation qui a été développée et qui est disponible pour tous les professionnels pour leur permettre de comprendre le processus en tant que tel et les actions qui permettent d'un processus qui permet d'attester d'un processus de discussion réussi. Ma collègue Andréane et Dr Lafontaine ont d'ailleurs travaillé beaucoup pour le développement de ce contenu-là. Et cette formation-là aussi, elle pourra être bonifiée au fur et à mesure en fonction de l'évolution du projet, mais toujours aussi dans la perspective d'un déploiement provincial. Donc, toujours est-il, discuter, c'est bien, mais il reste aussi comment le faire et comment bien le faire et comment aussi l'arrimer avec tout le plan de soins. Donc, c'est encore des formations qui reste à venir, que ce soit en termes de formation continue, en termes de co-développement également.
On a la chance d'avoir Dr Lafontaine qui va nous partager son point de vue sur toute cette approche-là. On lui a posé la question, là, à savoir comment elle percevait les principaux bénéfices de part et d'autre du travail interdisciplinaire dans le processus entourant les objectifs de soins. Donc, on va pouvoir écouter son point de vue.
Le travail en interdisciplinarité constitue une source de connaissances beaucoup plus riche pour mieux comprendre les souhaits de la personne. Donc, si nous les comprenons mieux, il y a une plus grande chance de respecter le choix de soins de ceux-ci. C'est le premier avantage, je dirais. La charge de travail aussi et les responsabilités liées à la cueillette des informations sont partagées par l'ensemble des membres de l'équipe soignante. Ceci allège le travail de chacun. De plus, la possibilité pour la personne soignée d'en discuter avec différents soignants peut aussi ajouter de l'aisance, du confort à la personne soignée, sans compter que ça puisse lui procurer un sentiment d'être soutenu dans toute cette démarche-là par l'ensemble de l'équipe. Cette façon de travailler en interdisciplinarité est également plus agréable pour les soignants. C'est une reconnaissance des compétences de chacun.
Des accomplissements extraordinaires par des gens dévoués. Voici le coup de cœur de la DSI.
Pour cet épisode, le coup de cœur de la DSI revient à ce projet, celui des objectifs de soins, qui s'imbrique dans la volonté de notre organisation à ce que l'humanisme soit reconnu comme une composante de nos compétences professionnelles et la diminution de l'écart qui se creuse entre les usagers et la réalité des soignants, telle que nommée par le protecteur du citoyen. Les objectifs de soins ont pour but d'être une ligne directrice sur les choix et les préférences d'une personne donnée quant aux soins qu'elle voudrait recevoir ou non. Plus les professionnels guideront les usagers dans leurs réflexions et moins les décisions urgentes et précipitées auront lieu. Le but de ce projet étant de lier la population et les professionnels dans les soins qui seront reçus et dispensés en cohérence avec les valeurs de chaque personne.
Soins sécuritaires, réontologie, L3S, acte réservé. Ai-je le droit?
En tant que professionnel en soins infirmiers, ai-je le droit d'initier une discussion sur les objectifs de soins sans la présence ou l'accord d'un médecin? Pour répondre à cette question, il est essentiel de bien comprendre les interventions clés du processus, notamment de discuter les objectifs de soins, formuler l'objectif désiré et compléter le formulaire officiel correspondant. Lorsqu'un usager présente une maladie chronique sévère, un pronostic réservé, des comorbidités, un changement important de son état de santé ou exprime le souhait de discuter des objectifs de soins, tout professionnel ayant les connaissances et compétences nécessaires, y compris les infirmières et infirmières auxiliaires, peut initier cette discussion. Après avoir évalué l'aptitude de l'usager à consentir, tout professionnel peut présenter et formuler les objectifs de soins, qu'il s'agisse de prolonger la vie, de trouver un équilibre entre prolonger la vie et le confort, ou de privilégier avant tout le confort. Les professionnels peuvent également discuter de la réanimation cardio-respiratoire en tenant compte de leurs limites de connaissances et compétences. Si nécessaire, ils doivent référer à une autre infirmière ou à un autre professionnel compétent. Les éléments discutés doivent être consignés dans l'annexe prévue à cette fin qui servira de référence dans le dossier du patient et qui fait foi de la documentation infirmière. Le médecin ou l'infirmière praticienne spécialisée et leurs apprenants respectifs en tiendront compte lors de la complétion du formulaire officiel, en plus de réaliser leur propre évaluation de la situation. Il revient en effet au médecin ou à l'IPS et leur apprenant de compléter le formulaire officiel. Nous vous invitons à consulter la section Outils cliniques, objectifs de soins et réanimation cardio-respiratoire dans l'intranet. Vous y trouverez notamment un aide-mémoire sur les interventions clés, un dépliant pour les usagers, de même que le formulaire pour guider votre discussion. Nous vous invitons aussi à réaliser la formation « La clé pour accompagner la formulation d'un objectif de soins », un processus interdisciplinaire, précoce et évolutif qui est disponible au numéro 16646 dans l'ENA.
Équité, diversité, inclusion. La Minute EDI avec Franck Boulaslage.
Handicap et milieu de travail. Le handicap en milieu de travail est une question d'égalité des chances et d'inclusion. Les personnes en situation de handicap peuvent apporter des compétences uniques et précieuses, mais elles rencontrent souvent des obstacles, comme l'accessibilité des lieux de travail ou des préjugés. Certes, les employeurs jouent un rôle clé en créant des environnements inclusifs, par exemple en fournissant des aménagements raisonnables, comme des rampes d'accès, des bureaux ergonomiques adaptés, des logiciels adaptés pour les personnes malvoyantes ou aveugles, ou encore des horaires flexibles et davantage adaptés aux différents besoins. Ces ajustements non seulement respectent la loi comme la Charte des droits et libertés de la personne, mais favorisent également une culture d'entreprise diversifiée et innovante. L'inclusion ne se limite pas à l'accessibilité physique, mais englobe aussi la sensibilisation et la formation des collègues pour combattre les stéréotypes. Un lieu de travail inclusif est bénéfique pour tous et toutes, en valorisant la diversité des talents. Pour plus d'informations, je vous invite à consulter la section Équité, diversité et inclusion dans l'intranet du SUS de l'Estrichus. Merci.
Christina, Andréanne, on tient à vous remercier chaleureusement d'être venue nous parler de ce projet qui est d'une ampleur, mais aussi d'une importance capitale pour tous les usagers, les proches, mais aussi les professionnels qui sont là chaque jour pour discuter de ce genre de sujet-là. Fait que merci beaucoup.
Merci. Merci à vous.
Merci à vous.
Voici ce qui conclut cet épisode du balado Savoir et Stéthoscope. Je suis Sophie Martin.
Et moi, Stacy Corriveau. Et on se retrouve dans un prochain épisode pour discuter, justement, des personnes proches aidantes.
À la prochaine!
Le balado de la Direction des soins infirmiers du CIUS de l'Estrichu, Savoir et Stéthoscope, est produit et réalisé entièrement par l'équipe de la DSI. Ce balado a été enregistré et monté dans les studios de CEFAC 88.3 à l'Université de Sherbrooke. Merci à eux. À la prochaine pour plus de Savoir et Stéthoscope.